Comme Joël le disait, on a commencé, vous en avez peut-être un peu marre de me voir devant vous semaine après semaine. Mais voilà, le hasard des calendriers, les vacances font que vous me voyez beaucoup en juillet, vous me verrez très peu en août. Et on a vu donc dans Romains 1, tout d'abord, que c'était écrit par Paul. Non, dans Romains, dans Éphésiens, pardon. On a vu dans la suite d'Éphésiens 1 aussi beaucoup de choses sur notre identité, sur qui nous sommes, sur ce que nous pouvons faire avec Christ. Et pour démarrer Éphésiens 2, du coup, je vais commencer par Romains, ce qui est tout à fait logique. Et Romains 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et verset 17, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui a cru à notre prédication? Si je vous dis ce matin, qui a cru? Qui va lever la main? Ah, il y en a quelques-uns. Non, Gérard, les bras fermés, non, je n'ai pas cru. Je ne crois pas. Ah. Qui a cru à notre prédication? Mais attention, parce que... C'est quoi cette prédication? Comme je l'ai dit aussi dans les dimanches passés, souvent on a tendance à s'arrêter à la croix, à dire oh, moi je crois, Christ est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, voilà. Et si on s'arrête là, on perd des trésors et des trésors. Si on regarde au niveau de la Bible, qu'est-ce que je crois? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, intégralement, je crois à chaque verset qui est écrit dans la parole de Dieu. Chaque verset. Il n'y en a pas un où je me dis, non, mais ça, bon, peut-être que Paul était un peu fatigué ce jour-là quand il l'a écrit, ça, on n'est pas bien sûr, etc. Est-ce que je crois intégralement à 100% de ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Et attention, est-ce que je crois que ça a existé? Ça, comme Jacques nous le dit, hein, les démons aussi croient, n'est-ce pas? Le diable aussi croit que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, il le sait, il l'a vécu, il était là. Et pourtant, les démons tremblent et le diable aussi. Mais est-ce que je crois que ce qui est écrit, ça s'est bien passé, ça s'est réalisé, ou est-ce que je crois que moi, je peux le réaliser aussi? Plus difficile, hein? Quand je parlais la dernière fois aussi de cette... grande puissance qui est normalement en nous et qu'on ne laisse pas parfois s'exprimer, quand on voit que Paul, même le linge qui avait touché son corps, pouvait guérir des maladies et faire fuir des démons, et nous on se regarde les uns les autres et on se dit peut-être qu'on passe à côté de grandes choses. Quand on dit que la foi permet de déplacer des montagnes, et on lisait juste avant, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que nous croyons que David a bien tué Goliath un jour? Super, grande victoire. Mais est-ce que je crois que moi, je peux aussi à mon tour terrasser des Goliaths dans ma vie? Peut-être pas le même Goliath en armure de plus presque 3 mètres, mais est-ce qu'on n'a pas tous des Goliaths à affronter? Est-ce que si on regarde dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, des géants, ou bien des murailles qui ont fait dire à ces espions que ce pays n'était pas pour nous, est-ce qu'on s'arrête là et on se dit non, je n'en suis pas capable? L'épître aux Éphésiens est, je trouve, beaucoup centré sur l'identité. Qui nous sommes? Qui je suis? Pas qui je suis comme ça, mais qui je suis en Christ. Est-ce que vous croyez encore aux miracles? Est-ce que vous vivez encore des miracles? Est-ce que nous regardons la Bible comme un recueil d'histoires passées, de contes et légendes magnifiques? Ou est-ce que je me dis la Bible s'écrit encore aujourd'hui, jour après jour, au travers des témoignages et des vies de tous ceux qui suivent et servent le Christ? Est-ce que vous avez vécu un miracle cette semaine? Ah. Question délicate. Hein. Moi, je vais vous en raconter un qu'on a vécu il n'y a pas longtemps avec Anne-Marie. Je pourrais vous en raconter un autre qu'on a vécu cette semaine en famille. Je pourrais raconter ma vie, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Je vais me contenter d'en donner un. Début de vacances avec Anne-Marie, Jean-Baptiste est chez la nounou. On est là tous les deux. Christine travaille. On se dit chouette, il fait beau. On va se faire une petite randonnée. Oui, t'es au courant, mais je suis. Et on part donc à pied. On a notre petit sac, on a de l'eau, on est bien. Et on va de Mâcon jusqu'à Saint-Laurent, de Saint-Laurent jusqu'à Replonge, de Replonge jusqu'à Feillan. Donc tout va bien. Et Anne-Marie commence à me dire, j'ai très mal au talon. Elle voulait pas gâcher cette randonnée prévue avec son papa. Donc elle a un peu caché sa douleur, mais à un moment donné, c'est devenu trop fort. Alors je regarde et je ne vois aucune trace ou marque sur son talon. Donc je me suis dit, bon, bah, voilà, et a priori, ça devait être ou le tendon, ce fameux tendon d'Achille. Et on se retrouve à Feillan, donc à pied, sans voiture, avec Christine qui travaille ce jour-là à Cluny en plus, donc un peu loin pour venir nous chercher. Je regarde les bus, prochain bus dans 3 heures. Ah, bon. Et là, je dis, bon, bah écoute, on va essayer d'avancer un peu, puis ça va aller, on va aller doucement, et puis elle se met à pleurer. Et je ferme les yeux, je dis, Seigneur. Et vous savez ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui passe et qui klaxonne. Pascal passait par là. Tiens, bonjour. Et Anne-Marie s'écrie, pleine de joie, Pascal, Pascal. Et Pascal nous a ramenés jusqu'à Mâcon. Et on peut se dire, oh, quel coup du hasard. Combien de fois cette année on s'est croisés, Pascal? C'est la seule, je crois. Enfin, à part le dimanche matin, certainement à l'église. Mais on peut se dire, voilà, c'est rien comme miracle. J'ai guéri personne, j'ai pas chassé un démon. Notre vie est pleine de ces moments-là, parfois qu'on remarque absolument pas. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui tout ce que vous avez évité? Non. Mais le Seigneur est là, et il suffit de pas grand-chose. Simplement, on ferme les yeux, on dit Seigneur, et il agit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à notre prédication? Est-ce qu'on vient le dimanche matin en se disant on va passer un bon moment, les chants c'est sympa, bon après des fois c'est un peu long, mais bon, les sièges sont confortables et puis au moins on est au frais. Est-ce qu'on écoute ces histoires en se disant oui c'est de belles histoires, elles se sont passées dans la Bible, ou est-ce que je les écoute en me disant je peux vivre ça au quotidien? Est-ce que quand je lis l'apôtre Paul, c'est quelqu'un de très éloigné de moi? Ou est-ce que je me dis je peux être cet apôtre Paul? Ce qu'il a fait, je peux le faire. Est-ce qu'on n'a pas le même esprit en nous? Alors si nous lisons un peu dans Éphésiens 2, après cette introduction, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je reviens sur ce que je disais, notre identité, voilà notre identité. Des enfants de colère destinés à la colère qui moissonne pour la colère. Mais on a bien le mot autrefois. Si on fait un peu d'étymologie comme faisait Joël, autrefois, ce qui se passait autrefois, est-ce que ça a encore cours aujourd'hui? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà notre identité aujourd'hui. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, préparé pour ses bonnes œuvres. Est-ce que je le lis et je le crois en me disant « Oui, Dieu m'a créé un jour ?» Mais là, on ne parle pas de la création de l'homme, mais on parle de la création du nouvel homme. On ne parle pas du vieil homme qui était un enfant de colère, mais on parle de ce nouvel homme qui est un enfant de lumière. Alors, que dire ? Est-ce qu'on peut dire simplement « Oui, c'est vrai, j'étais mort à cause du péché que je pratiquais, et aujourd'hui, grâce à Christ, je suis justifié et je suis sauvé. » Mais attention, le passage ne nous dit pas « Vous êtes sauvé par grâce, point. » Vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ah, c'est différent, n'est-ce pas ? Est-ce que, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on se souvient que la foi vient de ce qu'on entend ? Est-ce qu'on entend vient de la parole de Christ ? Est-ce que ma foi vient de mes raisonnements humains et de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu observer et comprendre du monde ? Est-ce que ma foi vient de ce que je lis ? Si vous vous rappelez un petit peu dans les évangiles, comment Jésus appelait ses disciples, qui l'entouraient au quotidien, qui ont vu des miracles qu'aucun de nous n'a peut-être vu avec nos yeux, qui ont vu le Christ face à face, lui ont parlé face à face et l'ont entendu prêcher. Plus que cela, ils ont entendu même les explications que les autres n'avaient pas toujours. Et Jésus, plus d'une fois, s'est adressé à eux en disant « Gens de peu de foi ». Je peux vivre des tas de choses, observer des tas de choses, croire aux miracles, voir des miracles. Ça ne change pas le fait que je peux être quelqu'un de peu de foi. La parole nous dit aussi dans un autre passage que certains ont prophétisé, chassé des démons en son nom et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas ». Ce n'est pas ce qu'on pratique, ce n'est pas ce qu'on vit qui fait notre foi. Notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous lisons ce passage et nous lisons juste Jésus m'a aimé, il s'est sacrifié pour moi, je suis sauvé par grâce. Il manque une partie. Est-ce que vous vous classez dans ces gens de peu de foi ? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que quand je lis la vie de Paul, je me dis « Jamais je ne pourrai faire le dixième de ce qu'il a fait. » Il a chassé des démons, il a guéri des malades, ressuscité des morts, etc. Lui-même, il a échappé à la mort. À plusieurs reprises, il a été lapidé, il s'est relevé. Il a été mordu par un serpent et aucun souci. Si on prend sa vie en entier, on se dit non, mais ça, non. Et du coup, en restant ainsi, un genre de peu de foi, on se prive en effet de toutes ces richesses, de toutes ces choses merveilleuses et grandes que nous pourrions faire. On oublie qu'un Pierre, par la foi, s'est avancé vers Christ et a marché sur l'eau. Mais que rattrapé par son vieil homme, sa nature humaine, ses peurs, ses doutes, ses craintes, il s'est enfoncé. Est-ce que dans notre vie, quand on s'enfonce, on blâme Dieu ? Comme on peut lire parfois dans certains psaumes, « Jusqu'à quand, Seigneur, laisseras-tu faire ces choses ?» On vit des choses difficiles et on se dit, « Mais regarde, je vois toutes ces personnes autour de moi qui font n'importe quoi de leur vie et qui s'en sortent bien mieux. » N'est-ce pas ? Pourquoi moi je m'enfonce continuellement ? Notre monde blâme Dieu en continu. Et encore ça, c'est quand il croit qu'il y a un Dieu. Il nie son existence et s'il existe, eh bien il est incompétent et incapable puisque regardez tout ce qui se passe sur terre. Encore une fois, nous croyons que notre Dieu existe. Mais le croire seulement, ça ne fait pas grand-chose. Que faisons-nous ? Comment avançons-nous avec cette connaissance de l'existence de Dieu ? Avec cette connaissance de son sacrifice pour nous ? Que faisons-nous quand nous lisons ces passages qui disent « Autrefois vous étiez enfants de colère, mais maintenant Dieu vous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. » Nous, on aime bien retourner à la colère, on aime bien s'arrêter à « Je suis sauvé », puis « Merci Seigneur, quelle grâce !» Mais Dieu nous demande de faire plus. L'apôtre Paul dira, dans un autre passage, « Il faut courir comme pour remporter le prix. » Et j'ai l'impression que, parfois, et je parle pour moi, je faisais un peu ça en EPS quand j'étais jeune. Je n'étais pas le plus endurant ou le plus performant en termes de vitesse. Certains sourient, peut-être qu'ils ne me croient pas. Si, si. Et quand il fallait faire des courses, moi, j'avais mon but qui était à moi, c'était, voilà, il fallait courir 5000 mètres. Je ne me disais pas, je vais arriver premier. Je me disais, je vais finir les 5000 mètres. C'était là mon but. Et j'allais tranquillement, à mon rythme. Et les autres, parfois, me mangeaient un tour, deux tours, deux terrains. C'est pas grave, je vais finir mes 5000 mètres. Et j'arrive au bout, je suis content et fier. Est-ce qu'on mène pas des fois notre vie chrétienne comme ça? En se contentant d'une allure raisonnable, modérée. En se disant, ouais, mais sinon, je risque de pas durer très longtemps. Ah, si je lis trop ma Bible aujourd'hui, je vais pas tenir le rythme. Mieux vaut en lire un petit peu chaque jour. Passer une heure en prière? Non. Je vais faire 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, puis en cumulé, on arrivera bien à une heure. Est-ce que parfois on se limite pas trop et on court, mais pas pour remporter le prix? Et encore en cours, des fois on marche. L'apôtre Paul, lui, n'est pas en train de dire « prenez votre temps ». Dieu a pris le sien, soyez tranquille. Il se précipite, il rachète le temps. Il court comme pour remporter le prix. On lit dans Actes tous ces voyages, ces messages, ces prises de risques face à des publics hostiles. Vous lisez pas dans Actes, puis Paul a pris une petite retraite de 2-3 ans sur une petite île sympathique. Non. On ne le voit pas faire de pause, on ne le voit pas s'arrêter. Quand il a l'occasion, on ne le voit pas s'empêcher d'y aller. Quand, justement, la ville d'Éphèse hurle, grande est la Diane des Éphésiens, Paul veut y aller. C'est les disciples qui l'arrêtent en disant, non, c'est dangereux, n'y va pas. Vous imaginez une foule en colère, qui proclame des idoles, qui serait prêt à massacrer le premier chrétien qui passe par là, et Paul dit, laissez-moi y aller. Est-ce que c'est un genre de peu de foi? Est-ce que dans notre vie, on a assez de foi? Que dit la parole d'ailleurs sur la foi? Est-ce qu'on vous a dit, vous en avez reçu un stock, faites attention, soyez économes, rationnez votre foi? Ou bien est-ce que la parole dit, si vous manquez de foi, priez, priez que Dieu vous augmente votre foi, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu nous met des limites? Dieu nous dit, si vous disiez à cette montagne, déplace-toi dans la mer, avec la foi, elle le ferait. Où sont nos limites? À nouveau, je peux regarder ma vie et me dire, bon, je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça, c'est bien. Que Dieu a préparé d'avance, tant mieux, afin que nous les pratiquions. Ah. Peut-être que Dieu a préparé pour moi dans cette journée 10 bonnes œuvres. Je mets un chiffre pour se donner une idée, mais sur ces 10, peut-être je vais n'en pratiquer qu'une ou deux. Peut-être qu'à nouveau, je vais me limiter. Je vais marcher. Je vais m'économiser. Je vais rationner cette foi, par peur peut-être d'en manquer. Est-ce qu'on saisit chaque occasion? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais passer un temps avec mon Père Céleste aujourd'hui? Je vais pas mettre une alarme sur le téléphone en disant, bon, 20 minutes, parce qu'après, quand même, j'ai des choses à faire. Hein. Faut que je cuisine, faut que je fasse ci, faut que je sorte. J'ai des amis à voir. Non, je vais passer un temps que je ne vais pas limiter. Un temps avec mon père, simplement. On a tous eu un père, qu'on a plus ou moins connu, plus ou moins apprécié. Est-ce que vous alliez vers votre père uniquement quand vous aviez un truc à demander? Tiens, papa, j'aimerais bien une glace. Tiens, t'as vu tel jouet? Il est sympa. Non. Pour votre plaisir personnel. Parfois, on fait le point. Moi, je regarde un peu mes prières et je me dis, mais c'est cette relation-là que je veux avoir avec mon Père Céleste. Juste être là à prier et à demander, demander, demander. Comme un enfant un peu gâté, dirons-nous. Quelle relation vous avez avec votre Père? Est-ce que vous n'avez fait que parler ou est-ce que vous avez écouté? Je pense qu'en tant qu'enfant, on a beaucoup plus à écouter, n'est-ce pas, de nos parents, que de parler et de dire ce que nous on pense. Alors, je suis pas un modèle en tant que relation avec mon père terrestre, mais j'essaye de faire différemment avec mes enfants. Et je me dis, voilà, est-ce que je passe ma journée juste à leur donner le minimum vital? Il a soif, tiens de l'eau, il a faim, tiens à manger, allez hop, vous vous couchez, oh, c'était une bonne journée. Ou est-ce que j'essaye de chercher plus loin, d'avoir une vraie relation avec eux? Comment s'est passée ta journée? Comment tu te sens? T'as pas compris ça? Viens, on va s'asseoir, on va l'expliquer. Tu veux qu'on passe un temps ensemble? On a un Père Céleste qui ne demande que ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Regardons nos journées, regardons nos prières, regardons nos lectures. Qui peut dire, je me suis assis aujourd'hui, j'ai passé 3 heures dans la présence de mon Père Céleste et c'était merveilleux. Rappelons-nous de Jésus, qui était venu quand même avec, on va dire, un sacré boulot à faire, hein. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir, beaucoup de choses à dire, tellement de guérisons, de prédications, etc. Mais ce Jésus-là prenait le temps de s'arrêter, de s'isoler et de passer du temps avec son Père Céleste. S'il en avait besoin, si c'était nécessaire, c'est peut-être que pour nous aussi ça l'est. Quel temps je mets à part pour Dieu? Quelles bonnes œuvres je pratique parce que j'ai le temps, parce que je le veux bien, parce que j'ai su être attentif à ce que me disait mon père, et j'ai pas raté ce qu'il avait prévu. Alors en effet, les versets 8 à 10 nous disent: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans ces deux, trois versets, on a tout un programme. Et on a tout un progrès à faire. On a tous à progresser sur notre foi. On a à progresser sur peut-être toutes ces bonnes œuvres qu'on rate. Mais pour ne pas les rater, pour que notre foi s'augmente, on a simplement à passer du temps dans sa présence. C'était le souhait de Dieu dès le départ, n'est-ce pas? Si on regarde la création, si on regarde le jardin d'Éden, l'homme était là, Dieu était là avec lui. Est-ce que Adam passait son temps à demander à Dieu, il me faut ci, il me faut ça? Non. Adam n'a même pas demandé Ève. C'est Dieu qui, en l'observant, s'est dit, tiens, il n'est pas bon qu'il soit seul. Ce n'est pas Adam qui a réclamé en disant, je m'ennuie, fais des trucs. Non. Dieu lui a donné un travail, il lui a confié le jardin d'Éden. Dieu a vu ses besoins, il lui a créé une femme qui lui a confié. C'était ça le plan de Dieu originel. Simplement nous, dans sa présence. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chute, la séparation. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? La réconciliation, la grâce. Et ce voile qui séparait dans le temple, ce lieu saint du lieu très saint, ce voile de séparation entre nous et Dieu a été déchiré à la croix. Et on lit ces passages et on les connaît tous, n'est-ce pas? Ah oui, le voile se déchire. Parfois, on remarque les détails, il s'est déchiré de haut en bas. Tiens, c'est marrant, ça. Ça n'arrive pas souvent. Et puis, on s'arrête là. Et on reste dans le lieu saint, si encore on est dans le lieu saint. Mais le voile est déchiré et Dieu nous dit, vas-y, Entre, viens dans ma présence, passe du temps avec moi. Si on veut lire la vie d'un apôtre comme Paul ou lire la vie de Jésus et se dire « moi aussi, je peux faire et vivre les mêmes choses », à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut passer du temps avec son Dieu. Pas passer du temps comme Paul l'a fait dans sa jeunesse en tant qu'étudiant et érudit, à étudier la parole avec un maître qui lui apprenait des choses, mais simplement après avoir rencontré Jésus, il a passé du temps avec lui pour le connaître, pour en parler intimement. Et quand il nous parle, dans ce passage qui nous a ressuscités et il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, comme Joël le disait un peu tout à l'heure, est-ce que dans ces lieux célestes, on regardera en arrière en se disant « Ah, on a déjà goûté à ça sur terre. » Ou est-ce qu'on se dit simplement « Ça n'est réservé que pour plus tard. » Est-ce qu'on est capable de se dire « En Dieu, en Christ, je peux vivre ces choses-là. Je suis capable de cela. » Avec Anne et Marie, on a commencé la lecture d'un témoignage que vous connaissez peut-être, le Sadhu Sundar Singh. Elle l'a découvert dans une BD dans Tournesol. Je dis, mais on a le livre, lisons-le. Et donc, c'est les vacances. On fait de la lecture ensemble. Il a été quelqu'un, si vous ne connaissez pas son histoire, de très haut placé dans les castes en Inde. Donc ce système-là qui faisait de lui quelqu'un d'important de par sa naissance. Il a étudié l'hindouisme, il a étudié l'islam, il a étudié des tas de choses. Et il ne trouvait pas la paix. Et il demandait à ses maîtres et ses précepteurs, parce que ses parents étaient riches et il avait des grands personnages illustres dans la foi hindoue qui le guidaient. Et il leur demandait, mais comment avoir la paix? Et ses précepteurs lui disaient, tu ne peux pas, tu l'auras plus tard. Le principe, c'est, tu vas faire des vies de mieux en mieux, tu vas être de meilleur en meilleur, et dans le cycle des réincarnations, un jour, tu vas sortir de la roue de la réincarnation et tu vas atteindre le nirvana. Et là, tu auras la paix. Donc, je ne peux pas avoir la paix maintenant. Non, plus tard, à force de. C'est un beau système. Hein. Au point que le Sadhu Sundar Singh, un jour, a été voir son père en disant « Bon père, je vous dis adieu, je me donnerai la mort ce soir. » Et ça se faisait dans cette religion, parce que justement, c'est un moyen de passer d'une vie à la suivante. Pas de souci. Nous, le suicide, on est un peu moins à l'aise avec ça. Si votre enfant venait vers vous avec ces propos-là, on serait un petit peu plus affolé, n'est-ce pas? Et son père a dit, bien, écoute, voilà, si c'est ta décision. Et là, alors que lui-même avait persécuté le Christ, puisqu'il était dans une école missionnaire, et il jetait des cailloux sur les prêtres et autres qui passaient, il se moquait de tous ceux-là qui croyaient en ce Jésus, s'il croyait ses enseignements si faux. Là, comme Paul, il a rencontré le Christ. Et il a connu cette paix qu'il recherchait si ardemment depuis des années. Au point que ça a changé sa vie. Une vie pourtant bien partie, dans une famille riche, dans la plus haute caste, un avenir tranquille, tout tracé. Il va renoncer à tout ça. Ça va lui causer quoi? Alors déjà, ils vont essayer de le tenter avec des richesses et autres. Ils vont aller plus loin. Ils vont le menacer. Ils vont le chasser de la maison. Il va se retrouver à dormir dehors, à devoir mendier sa nourriture. Pire encore, ils vont empoisonner sa nourriture afin qu'il meure et que ce ne soit plus un sujet de honte pour la famille. Et il ne s'est pas dit, je vais ralentir l'allure. Non, peut-être que j'en fais trop. Il s'est dit non. Celui qui m'a donné cette paix, celui qui s'est révélé à moi, il vaut bien que je perde ma vie pour lui. Alors on lit l'apôtre Paul, on lit des témoignages comme ça et des témoignages de personnages illustres, il y en a des tas, il y en a plein. Et on les lit parfois avec un regard admiratif en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Qu'est-ce que Paul est capable de faire ?» Et Dieu nous dit dans sa parole « Mais c'est pas le même esprit que tu as en toi? Est-ce qu'à toi je t'ai donné moins? Dieu nous dit dans sa parole, avec un peu de foi, tu peux déplacer des montagnes. Je vais lire un peu la suite d'Éphésiens 2. Et essayons de lire ce passage, non pas comme quelqu'un qui lit et qui écoute et qui entend et qui comprend, non pas comme un employé lambda d'une multinationale qui s'appellerait Église de Christ, mais comme un fils, comme une fille d'un Père Tout-Puissant. C'est différent, n'est-ce pas ? On n'est pas là ce matin parce qu'on a obligation d'être là, statutairement devant Dieu, on a tant de jours de présence à avoir, sinon, retenu sur salaire. On n'est pas là parce qu'en effet, on est employé, n'est-ce pas ? On est là parce qu'on est enfant. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce à quoi notre Père nous appelle. Il a renversé le mur de séparation. Le désir de Dieu depuis le début de la création, c'est d'être simplement avec nous, c'est qu'on soit dans sa présence, qu'on soit un, qu'on ne soit pas deux. Si Christ prend l'image du mariage pour parler de l'Église comme l'épouse, ce n'est pas rien. Car en effet, le mariage, c'est cela. Deux qui font un, qui deviennent une seule chair, un seul nom, qui sont unis. Et à nouveau, et je parle pour moi-même, bien souvent, même si le mur de séparation est brisé, on reste de notre côté. Bien souvent, on modère son allure, voire on fait des pauses dans cette course où on est censé remporter le prix. Bien souvent, on se prive de ces temps magnifiques en sa présence. Parce qu'il y a tellement de distractions. Et quand je parle de distractions, il ne s'agit pas même de distractions mauvaises, dirions-nous. Il y a tant de belles choses à faire sur la terre. Mais comment je peux aller aider mon prochain ? Comment je pourrais faire la volonté de Dieu et pratiquer les bonnes œuvres ? Comment je pourrais parler d'un Père que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, avec qui je ne passe aucun moment ? Comment pourrais-je raconter la journée de Joël si lui-même ne me l'a pas racontée ou si je ne l'ai pas vécue moi-même en étant à ses côtés ? Les seuls moments de sa journée que je vais pouvoir dire, c'est ben, « j'ai vu Joël ce matin à l'église, il avait sa guitare, etc. » Comment parler des œuvres du Père ? Juste parce qu'on les a lues dans un livre ? Ou parce qu'on les a vécues avec lui ? Lequel va être le plus convaincant ? Nous sommes appelés à être quoi ? À être un édifice bien coordonné, n'est-ce pas ? Un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. C'est beau ça. Quand vous lisez la construction du temple, oh, c'est magnifique. Bon, on sent que hein, Salomon, il n'était pas à découvert. Hein. Parce qu'on va construire ça et hop, on le couvre d'or. Et ça, hop, on le couvre d'or. Et ça là-bas, et hop, et des statues, et des colonnes, et des. Et l'arche de l'Alliance, et ben des chérubins, et c'est couvert d'or partout, dessus, dedans. Un temple, pourtant terrestre, mais magnifique, n'est-ce pas? Déjà le tabernacle, avant aussi, Dieu avait inspiré des hommes et leur avait donné des dons particuliers à tel orfèvre, à tel constructeur, etc., pour réaliser une tente, mais l'habitation du Seigneur, l'arche de l'Alliance, toutes ces choses-là, le détail avec lequel ça a été prévu, planifié, construit, comment ça a été préparé et accompli. Et ce temple, c'est rien comparé à cette habitation que Dieu veut faire en nous. Parce que ce temple, il était séparé en plusieurs parties. Ce temple n'était pas accessible aux étrangers, si ce n'est le parvis. Le lieu saint n'était pas accessible à tous, et le lieu très saint encore moins. Si vous regardez le plan du temple, vous pouvez vous dire c'est un édifice magnifique, mais moi j'aurais été cantonné ici. J'aurais pas eu le droit d'aller plus loin. Mais Dieu veut faire de vous un temple sans mur de séparation, sans voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui reconstruisons ce mur. N'est-ce pas? Alors, ce qu'on pourrait dire ce matin, même si c'est peut-être pas dit explicitement dans Éphésiens 2, passons du temps avec notre Père Céleste. De façon simple, dans la louange, dans la prière, dans la lecture, peu importe. Que ce soit à l'église ou que ce soit chez vous, peu importe. Dans Colossiens, il est écrit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ma femme me le fait assez remarquer, j'ai souvent plus des paroles de plainte, où je râle, que des paroles de grâce et d'action de grâce, n'est-ce pas? Dans le moindre événement de notre quotidien, ça ne se passe pas comme on veut, ou alors il faut patienter un peu, et tout de suite on est là, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'on va faire les courses, il y a 5-6 personnes dans la queue, et des gens l'entendent derrière, hey, « ouvrez une autre caisse, on a des choses à faire. » On a vu ça avec Anne-Marie il y a quelques jours, supermarché, il commence à hurler sur la caissière, qui elle faisait son travail. Ouais, vous ne pouvez pas appeler une autre. Et on a ces paroles mauvaises tout le temps à la bouche, tout le temps à râler, à se plaindre, à exiger. Et Dieu nous dit de tout faire comme pour le Seigneur avec action de grâce. Notre journée, ce n'est pas le matin, de telle heure à telle heure, je passe un temps avec Dieu, puis après, je fais des choses. Notre journée, c'est de minuit jusqu'à 24 heures. Je suis avec mon Père, quoi que je fasse, même quand je dors, même quand je mange, même quand je me lave, même quand je me balade, chaque instant. Est-ce qu'on peut prier sous la douche? Oui. Est-ce qu'on peut prier dans la queue d'un supermarché? Oui. Est-ce qu'on peut témoigner dans la queue d'un supermarché? C'est plus facile que de témoigner seul sous la douche, non? Oui, on peut témoigner. Est-ce que ma vie est ainsi bâtie? Est-ce que c'est ça que je recherche? Est-ce que je suis cette habitation où le Dieu dont parle la parole habite pleinement? Ou est-ce que c'est un ami qui vient me rendre visite de temps en temps, comme le dimanche matin de 10 à 12? Si on veut pouvoir saisir pleinement cette grâce, c'est par le moyen de la foi. Et à nouveau, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen.